tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai une toute petite mine et ce n'est pas parce que les Golden State Warriors ont été éliminés. Je vous rappelle que ça a été un temps mon pronostic, un pronostic qui décidément a très 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 mal vieilli. Je crois qu'il y a plusieurs mois maintenant, j'avais dit que les Warriors pouvaient gagner le titre et Shai, les Warriors sont déjà éliminés de la course au play-off. Pour être honnête, j'ai très très peu dormi, mais on a eu deux matchs de play-in assez intéressants. On va décrypter ça ensemble. Je te propose qu'on commence par Golden State, du coup. C'est quand même un sacré choc. Les Kings ont complètement dominé les Warriors entre ce match qui était entre le 10e de Golden State et le 9e de la Conférence Ouest. C'était à Sacramento. C'était une forme de revanche de la série de playoffs de l'an dernier où Golden State s'était imposé à Sacramento sur un match 7 coups près, donc un peu dans le même esprit, même si c'était encore plus fort, évidemment. Et là, les Warriors ont été... dominé par les Kings, victoire 118 à 94.
Dominé, balayé, c'est très décevant. Et en même temps, est-ce qu'on ne s'est pas bercé d'illusions un peu sur ce que pouvaient faire les Warriors en playoff, le fameux mode playoff en plancher, tu sais ?
Moi, clairement, mais...
Mais même moi, regarde, quand on a fait les pronostics, même hier soir, je pensais vraiment que les Warriors au moins passeraient l'obstacle Kings, parce que c'est une équipe qu'ils avaient déjà battue, que les Kings n'étaient pas franchement flamboyants ces derniers temps. Et c'est extrêmement décevant. Il va y avoir des questions et des dossiers pendant l'intersaison qui vont être compliqués. Mais sur le match, les Kings ont absolument rien volé. Ils ont poussé les Warriors à perdre beaucoup de ballons. Ils perdent 16 ballons. Les Warriors ont laissé trop de rebonds offensifs. Ils ont laissé plein de tirs ouverts défensivement. Ça a été pas bon du tout. Et offensivement, moi je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une éclaircie offensive. Au final, il y a Steph Curry qui met 22 points, qui a fait ce qu'il a pu, mais qui n'a pas non plus pu se sublimer au point d'aller claquer un match à 40 points, et les autres derrière n'ont pas du tout suivi. Je n'ai pas tiré sur Klay Thompson, mais c'est dur dans un match de cette importance-là de le voir à 0 sur 10. Il n'a pas mis un panier du match. Et quand en face, tu as Keegan Murray, qui est... Alors, je ne dis pas que c'est le même joueur en plus jeune, je n'irai pas jusque-là, mais c'est aussi un joueur qui doit scorer et aider la star de son équipe. Et lui, à côté, il a fait un match énorme.
Il a été la star de son équipe, lui.
Cette nuit, il a été la star de l'équipe, mais il a fait toute cette saison. On s'est demandé est-ce qu'il a pas un peu stagné, est-ce que c'est passé à la limite des Kings. Là, on a revu le Keegan Murray de la saison dernière et des playoffs même de la saison dernière. Il fait 32 points, je crois. J'ai pas la feuille sous les yeux, mais c'est 32 points et il met 8 paniers à 3 points. Il a fait un super match et en face, il n'y a pas eu d'alternative à Curry qui met donc 22 points, ce qui n'est pas énorme, mais il a shooté à 50%, donc c'est très correct. Il s'est fait traquer tout le match par Keon Ellis, qui a été super, je trouve.
Qui fait une très belle fin de saison, d'ailleurs.
Très belle fin de saison. Et tu vois, on se demandait, il n'y a pas Malik Monk, comment est-ce qu'ils vont gérer. Alors là, ce n'est pas offensivement qu'il a apporté, mais en défense, Keon Ellis a été excellent.
3 interceptions, 3 contres.
Voilà. Et les Warriors n'ont jamais trouvé d'alternative à Curry. Il n'y a personne qui met plus de 10 points.
Il y a 4 joueurs à plus de 10 points, mais effectivement, il n'y a pas de vrai soutien.
Il n'y a pas au-dessus,
Il y a 16 de Kuminga et de Moody.
Oui, en sortie de banc. Ouais.
Mais ça fait plusieurs mois, peut-être même déjà l'an dernier, on soulignait le manque d'une vraie deuxième option du côté des Warriors. Et clairement, ça a été... C'est-à-dire que pour moi, c'était leur limite pour le titre. Une fois passé cette espèce de pronostic de début de saison, c'était la limite. C'était de se dire, pas que pour le titre, c'était même un peu plus que ça. C'était de se dire, cette équipe, elle ne peut pas vraiment viser mieux qu'une série gagnée parce qu'elle n'a pas de deuxième option fiable. Et les Kings ont clairement joué là-dessus. Ils ont mis une forte pression sur Curry. Curry perd 6 ballons. Donc tu parlais des pertes de balles, c'est vrai, il y en a eu 16, il y en a 6 pour Curry. Volonté des Kings de forcer Curry à lâcher la balle et aux autres joueurs des Warriors de faire payer, et justement personne n'a fait payer. 0 sur 10 de Clay. Kuminga, il met 16 points et c'est lui qui signe le... C'est-à-dire que les Warriors ont mal commencé, les Kings ont été rapidement en contrôle parce que Keegan Murray, il a commencé par 4 paniers à 3 points. Murray a donné le ton. Il y a eu un écart, les Warriors sont revenus quand même à 4 points à la mi-temps, justement sur l'impulsion de Kuminga. C'est Kuminga qui a mis 12 de ses 16 points en première mi-temps. Mais derrière, il n'y a personne qui assure. Clay, 0 sur 10. Wiggins, 12 points fantomatique. Draymond Green, il met 12 points, mais bon, il n'a pris que 3 rebonds. Puis Draymond, ce n'est pas lui qu'on attend en tant que deuxième option. Et derrière, il n'y a rien. Chris Paul, 3 points en 18 minutes. deux passes, c'est le désert en fait, c'est le vide. C'est le vide. Et tu parlais de Curry, il n'a pas mis 40 points. L'an dernier, sur ce game set où il passe, c'est justement parce que Curry fait un très très gros match offensif. Ouais. Il met quoi, 50 et là, bah, ouais, Curry a 22 points. Les Warriors, 94 points. C'est leur plus petit total de la saison sur le match le plus important de la saison.
J'allais dire que c'est ça le plus surprenant, c'est de les voir à 94 points. Donc c'est à la fois au crédit des Kings qui ont quand même bien défendu. Et voilà, c'est fou que sur ce match-là aussi important, ils n'aient pas réussi à faire mieux, en fait.
Les Kings, depuis le 1er mars, j'ai vu ça sur The Athletic, c'est la troisième meilleure défense de la Ligue depuis le 1er mars. Alors, c'est une période assez courte, mais ça montre que Sacramento a quand même haussé le ton en défense. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé sur ce match. Et ben, ils sont allés chercher leur... Enfin, ils jouent leur survie, ils jouent leur place en play-off. Ils ont joué comme tel, pas les Warriors. Les Warriors m'ont beaucoup déçu sur le match. Plusieurs joueurs des Warriors m'ont beaucoup déçu. Et tu as commencé à parler de l'intersaison. C'est vrai qu'il y aura vraiment des vraies questions vu la façon dont les Warriors sont sortis. Clay, il quitte sur un zéro pointé juste avant
les négociations de son contrat. Il va avoir du mal à arriver avec des prétentions très, très élevées. Malgré son statut et l'histoire, c'est dur de finir là-dessus. Enfin, finir la saison là-dessus. Enfin, voilà, je pense que les Warriors sont en position de force pour négocier quelque chose vraiment à la baisse. Donc,
je ne sais pas si un match, ça change vraiment quelque chose. Mais...
Non, en plus, il était pas mal ces derniers temps, au scoring notamment. Il était bien. Non, tu as raison, il ne faut pas se baser que sur un match. Et puis, ils se connaissent depuis tellement longtemps que ça va discuter calmement, je pense.
Puis, il y a eu quelques limites aussi de la jeunesse. C'est ce qui m'inquiétait. Par exemple, je pense aux rookies. Alors, Kuminga et Moody, je les considère presque plus comme des jeunes. C'est des jeunes, mais ils sont confirmés dans cette rotation. Mais tu vois, Podziemski et Jackson Davis, qui sont des bons joueurs pendant la saison régulière, je me disais, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même impact en play-off. Ben, ne serait-ce que sur ce match de play-in. Alors, c'est qu'un match. Mais Trey Jackson Davis, il a joué 11 minutes, il a mis 2 points. On l'a quasiment pas vu. Podziemski, il a joué un peu plus longtemps, mais pareil, pas beaucoup d'impact, 5 points. C'est des mecs qu'on a quasiment peu vus. Alors, on n'a pas beaucoup vu les vétérans non plus, hein, mais... Ouais. Mais voilà, il y a... Enfin, c'est vraiment décevant de la part des Warriors. Je pense qu'on peut... Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. On peut peut-être passer à l'autre match de la soirée. C'était le premier entre les Lakers et les Pelicans. Et il y a eu une victoire des Lakers. Les Lakers qui continuent de bien réussir face à New Orleans. Ils avaient gagné 3 des 4 matchs cette saison. Ils sont allés gagner le match de play-in à New Orleans, 110 à 106, malgré 40 points de Zion Williamson. On se demandait quel Zion on allait avoir. On a eu un Zion super déter. Il s'est blessé, malheureusement, juste après avoir égalisé à quelques minutes, 3-4 minutes de la fin. Par contre, les autres joueurs des Pelicans n'ont pas été au rendez-vous.
Ouais, trop décevant.
Là, je suis en train de monter un case sur Brandon Ingram, mais c'est terrible.
Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est revenu de blessure finalement, mais ça, c'est pas du tout son meilleur visage, c'est clair.
Toute la saison.
Là, le manque de Zion a été à la hauteur. Il y a eu cette déception de le voir se blesser. Il égalise en plus à 3 minutes de la fin. Tu te dis fin de match bouillante, il va aller ramener, puis il se blesse à la jambe. Alors apparemment c'est pas gravissime, on sait pas, on va attendre les examens, mais derrière, du coup, derrière les Lakers, ils font parler leur expérience et ça passe. Mais oui, ça a manqué d'alternatives pour les Pelicans. C'est l'adresse de McCollum et de Ingram, parce qu'il y a McCollum aussi quand même qui est un joueur expérimenté. Oui. Il shoot à 4 sur 15, je crois.
Et 4 sur 12.
Ça fait la différence. Hein. C'est bien d'avoir un joueur qui est dominant comme l'a été Zion sur ce match-là, mais il faut quand même un peu de... Il faut d'autres solutions. Aucun autre de ses coéquipiers a mis plus de 11 points. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps rédhibitoire, mais les Pelicans ont mieux shooté que les Lakers, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont été plus adroits, non? Je dis une bêtise. C'est l'impression que j'avais pendant le match. Je voyais les...
Si, c'est ça, 46% au tir. Ouais, la différence, par contre, c'est que les Lakers, ils ont mis 14 paniers à 3 points.
Ouais.
Les Pelicans ont été bien moins adroits de loin. Et on sait à quel point le 3 points devient précieux. Et c'est... clairement une des clés là sur un match qui se joue à 4 points.
Ouais, et les Lakers sont on sait que c'est leur style de jeu, on va pas les gens disent ils aiment bien dire que les Lakers sont plus de lancer franc que tout le monde. Là, ils ont encore réussi à bien provoquer, à aller bien bien plus souvent sur la ligne que les Pelicans. 26 sur 29 et les autres ils sont allés que 15 fois, 11 sur 15 avec LeBron qui a été parfait sur la ligne et qui a été même dans un match où il est un peu maladroit, il a quand même eu l'emprise sur le match.
Bah ouais, c'est simple. Aux Pelicans, le seul qui drive, c'est Zion. Hein. Et il est inarrêtable quand il drive. C'est incroyable. Alors, Zion en small ball 5, c'est absolument insane. Mais pour ça, il faut qu'il soit déterminé en défense. Et il l'a été sur ce match. Il a contré LeBron. Il a pris LeBron. C'est lui qui prenait LeBron. LeBron, il a 6 sur 20. Zion, plein de fois, l'a joué en 1 contre 1 en défense. Il était vraiment sur lui. Même pas de switch, rien. Il était vraiment sur lui. Et de l'autre côté, non seulement je disais small ball 5, mais en fait, Zion, c'est ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas besoin d'espace, en fait. Tu peux avoir un spacing dégueulasse avec Zion, il se crée de l'espace. C'est une machine. Quand il est lancé, c'est une machine. Et là, on le sait, hein, on le savait déjà, mais là, on a pu voir ce visage de Zion, ce qui n'est pas toujours le cas. Il a été agressif tout le match. Il n'en avait rien à secouer de qui était face à lui. Il rentrait dans le tas et il est ultra agile, ultra puissant. Il arrive à finir malgré des contacts. Lui, il aurait pu shooter beaucoup plus de lancers francs au passage. Il en tire 9, il aurait pu en avoir plus. Il a conclu plein de fois malgré le contact. Il a forcé constamment la défense des Lakers à amener de l'aide, etc. Et malgré ça, il finissait au cercle. Ce qui n'est pas le cas des autres, en fait. C'est-à-dire que McCollum, il crée pas la peur. Ingram non plus, c'est des mecs qui ne rayonnent pas sur le jeu comme Zion. C'est-à-dire que Zion, il a un pouvoir d'attraction, je trouve, quand il prend la balle et qu'il se met à rentrer. Ce n'est pas le cas d'Ingram. Ingram, les Lakers, clairement, ils ont dit, bah, vas-y, joue ton 1 contre 1 face à Hachimura. Tu vois, il n'y a pas de peur ou de crainte, ou ça attire pas d'aide, ça crée de décalage. Et du coup, ils ne rayonnent pas sur le jeu, en tout cas sur ce match, ils ne rayonnent pas sur le jeu de la même manière. Ce n'est pas pour comparer Ingram et Zion, mais ça avait clairement pas le même impact, hein, même si Ingram il lâche 4 passes, dont une très belle pour Zion. Et Zion a ramené à bout de bras en fait les Pelicans. Hein. Il y avait 17 points d'avance pour les Lakers. Les Pelicans ont bien mieux commencé le match que les Lakers. Mais derrière, il y a une montée en puissance de Los Angeles. Los Angeles prend 17 points d'avance et Zion, il les a ramenés jusqu'à 95-95. Et c'est là où il se blesse en fait.
On peut se demander ce qui aurait pu se passer après sur la dynamique. Ils étaient vraiment bien, t'as raison. C'est aussi pour ça que, enfin, on va voir comment la nature de sa blessure et ce qui pourra être là au match suivant, mais c'est le truc rassurant, c'est que Zion a été à la hauteur du rendez-vous, que tu peux te dire que les autres autour, sur un match contre les Kings, ils vont peut-être faire mieux, parce que là, même si on a déjà vu pire comme stat, hein, mais c'est des joueurs d'un autre calibre qui doivent mieux accompagner Zion. Et cette performance de Zion, des deux côtés du terrain, l'intensité qu'il a mise, Ça c'est plutôt rassurant et ça peut donner un peu d'espoir contre les Kings
prochain
match. S'il est là, après il disait, enfin c'est.
Il parle de soreness, mais ça a l'air bizarre.
Ouais, douleur. Ouais, de toute façon, mais Willie Green a parlé de douleur, c'est ça. Il arrive à sortir du terrain. Enfin, il est pas. On voit que c'est pas une blessure grave sur l'instant, mais ça peut le match arrive vite, donc oui, c'est problématique dans tous les cas.
On voit que c'est pas une blessure grave, mais moi ce qui m'étonne c'est que tout de suite il sent en fait que c'est mort.
Ouais, il est genre, il jette sa serviette. Ouais.
Exactement, c'est-à-dire il marque le panier, il marche, il y a un temps mort. Si tu fais pas gaffe, tu comprends même pas qu'il s'est blessé. Mais lui il le sait, tu vois. Genre lui il le sait, il est vénère, tu le vois prendre son maillot, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas et lui il sait. À ce moment-là il sait qu'il va même pas revenir. Tu vois, je veux dire, tu sens la frustration, tu sais que. Lui, il sait que ce n'est pas juste un truc genre j'ai mal et je reviens dans 2 minutes, tu vois. Comme des fois, tu sais, tu as ta cheville qui tourne un peu ou des trucs comme ça. Non, lui, là, il sait que le match, il est terminé à ce moment-là. Ouais. Il le sait. Et pourtant, il n'y a personne que tu regardes, il n'y a aucun moment où tu dis ah, bah tiens, son match est fini. Il est même en train de revenir en défense. Il est un peu hypé parce qu'il vient d'égaliser. Mais lui, il sait que c'est fini. Et ça, par contre, bon, ok, on verra, c'est vendredi le prochain match. Mais je ne sais pas, genre les Pelicans ont annoncé leg soreness. Je suis vraiment pas sûr que ce soit juste leg soreness. Ça veut pas dire, je dis pas qu'il sera pas disponible. Hein, je suis pas médecin ou quoi, mais dans l'attitude, ça. Si c'est juste soreness sur le moment, je pense pas que tu sois aussi convaincu que tu sais que tu vas pas jouer la fin du match. Tu vois.
Ouais. T'as raison. J'essayais de rester optimiste parce que Green avait pas l'air de dire que c'était un truc.
Mais il sera peut-être là. Hein. Il sera peut-être là. Par contre.
Il sera diminué par contre. C'est ça aussi. Mais bon. On peut pas savoir. J'essaie de rester sur la bonne impression qu'il a laissée. En même temps, je comprends sa frustration parce que la dynamique était vraiment bonne au moment où il sort. Et derrière, les Lakers ont retrouvé un peu. Ils ont retrouvé l'espèce de supplément d'âme. Ils ont à nouveau été agressifs. Ils ont à nouveau été beaucoup sur la ligne. Anthony Davis, après, j'ai l'impression qu'il est allé 4-5 fois sur la ligne. En réussissant à provoquer des fautes. LeBron s'est remis à être un peu plus adroit alors qu'il fait un match à 6 sur 20. C'est le tournant du match, hein, de toute façon.
Ouais, clairement, c'est le tournant du match. Je vais donner quelques stats. Donc, Zion, il était à 40 points avec 11 rebonds, 5 passes. 20 points, 15 rebonds pour Anthony Davis. 23 points, 9 rebonds, 9 passes pour LeBron James. 21 points pour D'Angelo Russell qui a mis 5 paniers à 3 points. 16 points d'Austin Reeves. Il y a un autre joueur, un joueur du banc qui, j'ai trouvé, a eu un très bon impact pour les Lakers et je m'y attendais plus. C'est Gabe Vincent. Il a mis 9 points, il a eu des bons passages, clairement, notamment dans le deuxième quart-temps, quand les Lakers reviennent alors qu'ils sont menés, ils reviennent, ils passent devant. Donc il fait 9 points, 4 rebonds, il a mis des tirs à 3 points. En fait, j'ai l'impression de voir quelque part le Gabe Vincent du
de Miami.
Ouais, c'est ça. C'est genre lui, il a activé le mode play-off, quoi.
Ouais, bah, si ça arrive maintenant, c'est un renfort incroyable pour les Lakers parce que c'était attendu toute la saison. Il a eu des gros problèmes de blessures, il a eu du mal à se mettre dedans quand il était moins gêné par les blessures. Et là, c'est un profil de joueur qui manque. Ce qu'il est capable d'apporter, ça a beaucoup manqué aux Lakers, même tout au long de la saison. C'est un match, mais c'est un signe positif. Si, ne serait-ce que s'il met 50% de ses tirs à 3 points comme ce soir, un peu de playmaking, un peu de défense, avec l'expérience maintenant qu'il a des grands rendez-vous avec la campagne de l'année dernière. Alors, on va voir si c'est juste un one-shot ou s'il est amené à faire plus, mais... Il va être là, il a l'air d'être plus important dans la rotation que Dinwiddie qui arrive en cours de saison, qui joue un bout de match, enfin il joue 5 minutes. Je suis d'accord avec toi, Gabe Vincent a eu un impact positif sur le match et je m'y attendais plus, je le prenais à peine en considération dans la rotation vraiment des joueurs importants des Lakers.
Rotation qui est assez légère, je trouve, d'ailleurs, au passage. mais les Lakers sont step up en défense et sont allés chercher leur qualif. Ils vont jouer contre les Nuggets. On a déjà une série, du coup, à l'ouest. Le deuxième, Denver contre les Lakers, septième. C'est la revanche des finales de conférence de l'an dernier.
Ouais.
Il y a eu 4-0 pour Denver. Denver, cette saison, pareil, a à chaque fois battu Los Angeles. Ton regard un peu sur cette série?
Alors, je vais essayer d'être positif pour les fans des Lakers, même si je pense que les Nuggets vont se qualifier. Il faut bien se rappeler que le 4-0 de l'année dernière, je ne vais pas dire que c'était un faux 4-0, mais les Lakers sont bien mieux défendus que ce qu'il n'y paraît sur le score. Ils avaient vraiment bien tenu les Nuggets, fait des matchs accrochés, et le 4-0 était vraiment sévère. Donc, c'est un point positif parce que les équipes n'ont pas énormément changé, respectivement. Alors, il y a des joueurs qui ont un peu pris de l'âge, d'autres qui ont pris un peu d'expérience. Donc, c'est le côté positif, je pense, c'est que les Lakers peuvent se dire OK, Denver est une équipe supérieure, mais l'année dernière, on n'était pas loin d'avoir trouvé les ressorts pour leur prendre un, deux, voire plus de matchs. Et ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, mon regard, c'est que Denver va passer parce que c'est, pour moi, c'est une machine qu'ils ont la confiance des champions et que ça fonctionne très bien. Mais faut pas s'attendre à ce que je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit. À nouveau un coup de balai et une série totalement à sens unique.
Ouais, je vois aussi Denver passer sur cette série. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de talent, plus de certitude. Mais voilà, ça va être intéressant. Les Lakers, surtout leurs fans, ont cessé de répéter qu'ils n'avaient pas peur de Denver. Ce n'est pas forcément les joueurs qui l'ont dit. Mais j'imagine que les joueurs, eux aussi, étaient remontés. Ils ont une revanche à prendre. Ça peut donner une série intéressante au premier tour et peut-être un peu plus équilibré qu'elle n'y paraît entre un deuxième et un septième de conférence, même si là, avec le play-ins, quelque part, on a bien vu qu'il y a des équipes classées 7, 8 qui l'an dernier, on l'a vu, ça a déjà été le cas. Donc, on verra ce que ça donne.
J'ai hâte de revoir les courses de presse de Michael Malone sur. C'est devenu un peu pas l'ennemi public numéro un pour les Lakers, mais ils ont pas trop kiffé les déclarations de l'an dernier, le fait que. Il se sentait, même quand Denver gagnait, il avait l'impression que toute la narration était autour des Lakers. Il y avait les moqueries sur LeBron qui avait pas dit qu'il prendrait sa retraite, mais il avait laissé planer un peu le doute. Tout le monde avait dit que c'était parce qu'il voulait qu'on parle pas du succès des Nuggets. Enfin, voilà, il y a plein de trucs de l'année dernière qui vont être intéressants. Il y a une rivalité quand même. Ils se détestent pas, hein, mais je pense qu'il va y avoir des petites déclats intéressantes de part et d'autre.
Yes, on suivra ça évidemment. Ce soir, il y aura les matchs de play-in à l'Est, les premiers matchs de play-in. Ça nous donne donc un Philadelphie-Miami. Ça, c'est quand même un sacré match de play-in. Ça sera, attends, je check l'heure, à 1h du matin. Et ensuite, à 3h30, il y aura Chicago contre Atlanta. Donc, le perdant sera éliminé entre Chicago et Atlanta. Et le vainqueur de Miami-Philly retrouvera New York au premier tour des playoffs. Et nous, on débriefera ça ensemble demain.
Et d'ici alors demain, là, demain matin, tu seras avec Théo. Je suis pas là demain matin.
Pardon. Je serai donc avec Théo pour parler de Miami. Peuple. Oh là là, ça va être
magnifique.
Si Miami se qualifie, Théo va me cassé les pieds. Et au passage, j'en profite, on a fait une annonce dans la late session hier, mais je pense que c'est très important de le rappeler ici. Basket Session refait sa révolution en revenant aux sources. Si vous êtes connecté sur Basket Session ce matin, vous avez peut-être vu que le site avait changé. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez en compote. Mais je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Et même plus que ça, je vous invite à créer un profil sur Basket Session. Quand je dis retour aux sources, il faut savoir que Basket Session, ça a longtemps été un forum. Alors, on n'est plus tout à fait dans les années 2000, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Hein. Basket Session ne redevient pas forcément un forum, mais j'avais appelé ça un espace pour la communauté basket, un mix de réseau social, mais basket, un mix où vous pourrez retrouver des news, des papiers, mais où vous pourrez aussi vous participer, soit en débattant avec d'autres utilisateurs, en lançant ce qu'on a appelé des sessions, où vous pourrez mettre en avant, je sais pas, vos analyses, votre regard de la NBA, peut-être éventuellement vous trouver des compagnons pour la hoops. Enfin voilà, l'idée, c'est d'avoir un endroit, un espace qui est mi-réseau social, mi-site d'information, où vous pouvez être consacré au basket et sans avoir toutes les pollutions qu'on peut retrouver, notamment sur X, depuis qu'Elon Musk a repris le bébé sur Twitter. En tout cas, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. En plus, le design, je le trouve magnifique. Donc, n'hésitez pas à passer faire un tour.
Bien parlé.
Chai, je te laisse la main 2 secondes, Chai. Ou alors, non, vous savez quoi ? On va se laisser là-dessus. Bonne journée à tous. Je vous invite vraiment à aller regarder Basket Session. Je vous ferai une meilleure présentation demain. Et d'ici là, bonne journée à tous.
Yes, à demain.